Nous bénissons le Seigneur, nous pouvons reprendre place pour cette grâce qu'il nous accorde. Et quand on chantait ce refrain, Ezayo Yesu Bolingo Yamotema, je revenais moi-même et je me posais beaucoup de questions, disant, si je me dis réellement que Jésus est l'amour de ma vie, qu'est-ce que j'ai déjà fait avec lui pour que je confirme cette alliance? Lui, il a fait le premier pas, il est venu vers moi. Il est mort à la croix, il m'a racheté par son sang. Qu'est-ce que moi je fais pour lui? Actuellement, si vous êtes d'accord avec moi que, avec l'évolution, nous réalisons que quand les hommes demandent en mariage les femmes, ils plantent un décor. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les jeunes qui font les veux-tu m'épouser. Ils plantent un décor, ils préparent un espace, ils sont prêts pour accueillir la femme ou la fiancée. Qu'est-ce que nous avons fait pour accueillir l'époux, Christ, qui nous a doté de qui a donné cette dot qui n'équivaut à rien sur cette terre. Et puis on chante qu'il est notre amoureux. Au fait, ce qui confirme l'amour entre les gens, c'est les moments de qualité qui passent ensemble. Au fait, tu vas dire que tel aime tel parce que vous le voyez ensemble. Ça, c'est le premier astuce. Tel et tel marchent ensemble, il peut y avoir quelque chose qui bouge. Mais nous, on chante. Tu es notre amoureux. Est-ce que nous nous rassurons que nous sommes avec lui? Ozayo bolingwa motema. Est-ce que nous avons cet échange d'amour entre nous? Quelqu'un avait chanté, il a dit, si tu étais une fleur, j'allais décider de te planter dans mon cœur. Comme ça, là, je serais à mesure de t'arroser chaque matin. Jésus est planté où dans ta vie? Pour qu'à chaque instant, tu te rappelles qu'exactement, il est là. C'est mon amoureux. Si le ciel était tout près, j'allais faire des allées et des retours. Vous savez vous-même que quand on est dans cette période d'amour aveugle, on fait des tours et des tours chez la fiancée. D'ailleurs, on ne sait plus contrôler le temps. Combien de tours as-tu déjà fait vers le Seigneur pour témoigner ton amour pour lui? Au fait, l'Église, nous n'allons pas nous arrêter à déclarer les choses. L'Église, nous allons passer à l'action de choses que nous déclarons. Au fait, si nous disons que nos enfants ne sont pas la tête et non la queue, nous croyons exactement qu'ils ne sont pas la tête et non la queue. Et si nous déclarons que nous sommes amoureux de Jésus, nous devons nous rassurer que le préalable de l'amour sont respectés. Au fait, c'est un contrat 50-50. Dans l'amour, c'est un contrat 50-50. Si on n'arrive même pas à aimer tel qu'elles nous demandent nos femmes sur la terre, ma prière au Dieu de gloire est qu'au-delà d'aimer nos épouses, que nous puissions garder cet amour vrai pour Dieu, celui que nous appelons notre amoureux. Au fait, appeler Jésus son amoureux, ça implique beaucoup de choses. Ma prière est que exactement nous soyons conscients de ce que nous disons et de ce que nous faisons. Depuis le début de ce deuxième trimestre, nous sommes en train de développer les thèmes qui parle des habitudes d'un conquérant. Quelles sont les habitudes qu'a un conquérant? Je vais vous demander une minute, le temps que j'apprête ma présentation. Quelles sont les habitudes des conquérants? On a déjà donné autant d'habitudes, mais particulièrement ce matin, je suis en train d'observer, je ne sais pas si vous êtes en train d'observer comme moi, il y a quelque chose qui a changé dans cette église. Et je bénis le Seigneur pour cet appel, cette consécration, cette fidélité à l'œuvre. Est-ce que vous avez vu que tous ceux qui nous accueillent derrière les portes sont du ministère de papa de cette église? Il y a une église, je ne veux pas citer le nom, quand ils sont en train de préparer les offrandes, ils disent les papas ont remporté, ils ont gagné, les mamans faites quelque chose. On aimerait vous voir la semaine prochaine prendre aussi la relève. Les mamans, oh. Ah. L'autre fois, quand j'étais ici, je félicitais beaucoup les mamans, étant la première personne que Dieu, le premier coopérant de Dieu pour le salut du monde. Vous avez quelque chose. Alors, Moussitoua, je te dis que tu n'as pas gagné, gagné sur les petites choses. Prenez aussi les déçus. Alors, les habitudes d'un conquérant. Nous allons lire la parole de Dieu dans la lettre de Paul à Timothée. 1 Timothée chapitre 4. Nous allons lire du 13e au 16e verset. Merci Média. Nous allons lire dans la version Louis Segond. C'est Paul qui est en train d'écrire à Timothée par respect à la parole de Dieu. Nous pouvons nous tenir debout. Jusqu'à ce que je vienne, ça veut dire il y a une période donnée jusqu'à ce que Paul revienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition de main de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tout. Veillez sur toi-même, ou veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi et tu sauveras ceux qui t'écoutent, parole du Seigneur. Alors, si je veux introduire ce message, je veux dire que les habitudes sont développées par nous, mais produisent des effets, des impacts qui touchent la communauté et tous ceux qui sont autour de nous. Je développe des habitudes pour moi, je veux devenir comme Christ, mais en devenant comme Christ, je suis en train d'aider quelqu'un qui est à côté de moi à copier. L'apôtre Paul est en train de dire, soyez mes imitateurs. L'apôtre Paul n'est pas en train de dire, écoutez mes prédications. Il est en train de dire, je veux marcher au-devant de vous et soyez mes imitateurs comme moi, je l'ai de Christ. Donc quand tu développes une habitude, rassure-toi qu'il y a quelqu'un qui est en train de te copier. Malheureusement, il y a de bonnes et de mauvaises habitudes. Donc si tu développes les mauvaises habitudes, les enfants sont en train de copier. C'est pourquoi, évitons, chère Église, quand nous marchons, quand nous parlons et devant ces enfants à l'Écodime, agissons fidèlement. Ils sont en train de voir les modèles des serviteurs. Ils sont en train de copier les modèles des chrétiens que nous sommes. Le matin, quand ton enfant te demande l'offrande, ah, laisse-moi ouvrir ces parenthèses. Ma fille me demande l'offrande. Ils aiment appeler l'offrande l'argent de Jésus. Et elle me pose la question, papa, quel jour c'est Jésus-là vient prendre son argent dans ce boîte? C'est Jésus-là arrive ici quel jour pour récupérer tout son argent? Parce que c'est déjà beaucoup. On donne, mais il ne vient pas récupérer. Si on ne saisit pas ces moments pour dire à l'enfant que cette offrande que nous donnons, ça fait l'œuvre de Dieu, ça fait avancer l'Église, l'enfant va penser que je donne et Dieu reçoit. Oui, par la foi. Mais le fond que nous donnons ici, c'est ce qui nous aide à servir, à répondre aux besoins de l'Église. Il est temps, Église, que nous marchions, que nous développions des habitudes et des pratiques pour aider la nouvelle génération à prendre la relève, à prendre le contrôle. Au fait, l'Église d'aujourd'hui, les enfants sont l'Église d'aujourd'hui et de demain. Je ne veux pas dire les jeunes, je veux dire les enfants, parce qu'au moins les enfants, leur mémoire est encore fraîche, on peut installer d'autres logiciels. Mais il y a des jeunes qui sont bourrés, on n'a pas besoin, ils n'ont plus d'espace pour installer. Même les antivirus, tellement que vos têtes sont bourrées, vous êtes connectés au monde, on n'a plus de choses. On vous invite déjà les 17 pour voir si on va trouver même 4 mégas d'installer quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. En tout cas, ne rate pas ce rendez-vous. Les habitudes sont les résultats de nos pensées et de nos actions. Tu peux te dire, non, moi, je m'enferme chez moi, je ne sors pas. D'ailleurs, je suis dans mon bureau du matin au soir. Les habitudes commencent dans nos pensées où il n'y a personne à nos côtés. Nos pensées reproduisent des actes et ce sont ces actes qui nous poussent à développer une certaine habitude. Les habitudes produisent en nous le caractère et nous donnent de l'héritage. Écoutez mes amis, pendant que nous nous battons pour avoir l'héritage à laisser à nos enfants, nous courons derrière X et Y. Si ces enfants, on n'installe pas en eux des habitudes pour gérer même ce qu'on va leur laisser, tout va nous suivre après notre mort. Alors l'héritage par excellence à laisser à ton enfant, c'est ta réputation. Il y a des enfants qui, seulement en marchant, ils disent les noms de leur père. Les portes s'ouvrent. Vous pouvez être d'accord avec moi, et ça je dis à basse voix, si vous allez quelque part, ne vous présentez pas par votre nom. Dites seulement, je suis fils du pasteur Camille Toto. La première question te demande, de la radio ou... Parce qu'il y a deux Camille à Gaume. Il y a Camille de la radio et Camille de l'équipe Kabash. Maintenant on demande, de la radio ou de l'équipe? Si tu dis non, de la radio, le pasteur, en tout cas, on te traite différemment. Quand j'amène des dossiers dans beaucoup de bureaux, ils lisent un jour nouveau, ils me traitent différemment. Ça dépend de quoi? De la réputation, des habitudes que le papa a laissées, qui nous ouvrent de portes. Alors, si vous voulez laisser l'héritage à vos enfants, commencez à développer des bonnes et des bonnes habitudes. L'argent va venir. Des maisons vont venir. Ceux qui ont développé des mauvaises habitudes, ils ont démoli des maisons, ils ont vendu des parcelles. Après la mort de leur père, ils sont restés les mêmes. Alors, dans ce passage, nous venons de lire, c'est Paul qui est en train d'écrire à son fils légitime. Paul a les kilos d'appeler Timothée mon fils légitime. Ah, j'aime ça. J'aime quand quelqu'un m'appelle mon fils légitime. Donc il comprend, il accepte mes faiblesses, il accepte aussi mes forces. Paul dit, je me porte garant de t'appeler mon fils légitime. Tes erreurs vont tomber sur moi. Tes succès, tu vas peut-être en bénéficier, mais aussi j'en bénéficierai. Paul décide d'appeler Timothée son fils légitime. Et dans ce premier chapitre, donc du premier épître, Paul établit le contraste entre le saint enseignement et la loi mosaïque. Au deuxième chapitre de 1 Timothée, l'apôtre traite la prière et la position de la femme dans l'église. Au fait, c'est le livre pastoral. Cet épître à Timothée, c'est exactement une lettre qui m'est adressée en tant que pasteur. Mais je veux vous faire part de cette grâce que Dieu a déposée dans cet épître. Il dit comment les femmes vont se comporter dans l'église. Beaucoup, beaucoup de doctrines, beaucoup de choses se sont dites par rapport à la femme dans l'église. Au chapitre 3, il parle de charge locale d'anciens. Ici, il commence maintenant à nommer les anciens dans l'église et il établit un cahier de charges pour chaque ancien. Et dans le chapitre 4, là où nous avons lu, l'apôtre annonce la survenance de fausses doctrines. Mais il exhorte Timothée à bien se conduire et à être un modèle. Au fait, si vous lisez le début de ce chapitre, Paul est en train de dire à Timothée, tu es encore trop jeune. Quand tu vas t'élever au devant de ces vieux qui pensent connaître des lettres, tu peux être raillé. Mais une chose qui te fera ce que tu ne sois pas raillé, ce sont les habitudes que tu vas développer. Et les habitudes, c'était quoi? Applique-toi à la lecture, à l'exhortation. Et à l'enseignement, j'ouvre une parenthèse. Vous savez que nous paraissons sages pas parce que nous sommes sages, mais parce que nous avons tiré la sagesse de la parole de Dieu. Au fait, les gens viennent vers nous, on n'a rien à dire aux gens. Mais la parole de Dieu a tout ce qu'il peut dire à deux personnes. Alors si tu t'appliques à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement, tu auras nécessairement une réponse, un encouragement à donner à quelqu'un. Si vous voulez ou vous voulez donner à chaque personne votre expérience personnelle, vous allez perdre cette personne. Chacun est unique, original. La parole de Dieu est taillée sur mesure de chacun de nous. Si je trouvais ma part dans cette Bible, tu as ta part dans cette Bible. Alors quand tu viens, je ne te donne pas mon expérience. Je disais hier à quelqu'un que si je te dis que je suis parfaitement parfait, le bon mari, il paraît que je parais calme. Calme, un peu sérieux. Il paraît. Beaucoup de gens me disent. Mais si vous demandez à ma femme les réalités que nous vivons dans le couple, le problème auquel nous faisons face, vous allez dire, celui-ci aussi, il est comme ça. Ce n'est pas l'originalité. Si je viens te donner mon expérience, je vais te transmettre mes erreurs. Mais si je te dis la parole de Dieu, Dieu va te transformer. Alors, Timothée, ce que tu dois faire, ce n'est pas montrer aux gens que tu as passé du temps avec Paul. Paul est réputé dans ses contrées. Et disons Paul a déjà fait ses preuves. Au fait, même les démons disaient, on connaît Jésus, on connaît celui-là, on connaît celui-là, mais vous, ne pars pas comme ça. Ce qui va te mettre assis, c'est le fait de lire, d'exhorter et d'enseigner. On a déjà parlé de la lecture et je vous épargne des détails, je vous invite aux études bibliques. Le mercredi, on nous a parlé de la lecture, comment on lit, comment on médite la parole, qu'est-ce qu'il nous faut pour capitaliser ce moment. Au fait, la lecture, c'est une simple lecture, passée en revue, comme le journaliste. Il vient, il trouve un papier, il lit. Il n'a pas été sur terrain, certainement. Mais celui qui a envoyé le papier a été sur terrain. Mais quand il lit la vérité qui est écrite. Et cette vérité peut ou n'est pas l'affecter. Alors, dans la lecture de la parole de Dieu, ne cherche pas beaucoup de choses. Toi seulement, lis. Au fait, les oreilles ou notre esprit est habitué à des choses que nous voulons l'habituer, auquel nous voulons l'habituer. J'habitue ma mémoire à lire, j'habitue ma mémoire à méditer, j'habitue, ça va devenir une partie de moi. Alors Timothée, focalise-toi sur l'enseignement. Dès le bas âge, Timothée a été instruit par sa mère et sa grand-mère. Je bénis toutes les mères, toutes les grand-mères ici en ces lieux, qui au-delà de nous donner tout ce que nous demandons, surtout chez nos grand-mères. Et on a tout ce qu'on veut. J'ai une grand-mère, quand je veux la visiter, elle ne réalise pas que j'ai grandi. En fait, elle vient, elle veut que je, exactement quand j'étais enfant, elle veut que je fasse ça. Je n'ai rien à te donner, est-ce que tu peux prendre un kijumba? Ce n'est même pas cuit. Je bénis les grands-mères. Si nos enfants peuvent encore marcher demain dans la voie du Seigneur, si nous éduquons ces enfants dans la manière de Jésus, nous avons un héritage à laisser au monde et au Congo. Énis et Loïse sont les enseignants de leurs petits-fils et fils Timothée. Timothée est le pasteur de l'église d'Éphèse. Alors, par définition, une habitude, c'est une manière ordinaire, habituelle d'agir, de penser, de sentir, propre à quelqu'un ou à un groupe de personnes. C'est une manière normale, que nous avons rendue normale. Deuxième définition, C'est une aptitude à accomplir avec facilité et sans effort. Telle action, acquise par une pratique fréquente, l'exercice ou l'expérience. Au fait, quand tu fais chaque jour une chose, va devenir en toi l'habitude. J'avais déjà dit. Ce sont des actions qui sont enracinées, qui sont devenues naturelles par la répétition. J'ouvre une parenthèse. Quand j'arrive ici, du haut de la chaise, je tremble. Vous avez vu, même mon ordinateur a refusé d'ouvrir. Mais je suis en train de prier que quand ça deviendra l'habitude que j'arrive ici, le Seigneur me communique directement la pensée et ça roule comme ça, comme sur des roulettes. Mais monter ici, j'ai l'expérience avec la chorale. Il y a deux fois, je te dis, c'est toi qui vas conduire le culte de dimanche. La personne te fait 2 semaines sans venir à l'église. Mais quand tu as cette habitude en toi, on te dit tu vas conduire le culte de dimanche. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur veut que je parle aux enfants de Dieu? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Ah, je trouve un chant et je commence à chanter. Ces derniers temps, il y a un chant qui monte dans mon cœur grave. C'est peut-être parce qu'elle est en train de circuler sur les réseaux sociaux. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je t'ai béni. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Au fait, dans cette église, vous pouvez voir une blanche épouser un noir. Comment ne pas les louer? Dans cette église, vous pouvez voir des personnes comme moi, très timides, prendre la parole. Comment ne pas le dire? Je déclare que dans cette église, Dieu va faire des grandes choses qui vont nous pousser à les louer davantage. Davantage. Le dimanche passé, le pasteur nous a parlé sur un bon thème. Et les 4 éléments qu'il a donnés, faites régulièrement le check-up. Exercez-vous les exercices physiques et spirituels. Ayez une alimentation saine. Laisse-moi ouvrir une parenthèse sur une alimentation. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce livre de Timothée où Paul autorise à Timothée de prendre un peu de vin. Et beaucoup de fidèles, beaucoup de chrétiens se sont accrochés à ce passage. Si on a dit au pasteur Timothée, qui suis-je? Veillez à votre ou sur votre alimentation. Le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur ce thème. Je ne sais pas comment l'aborder. Je prie qu'il me donne encore de l'orientation sur l'alcool dans l'église. Au fait, il n'y a pas un passage, si je ne me trompe pas, qui dit il ne faut pas, livre tel, chapitre tel, verset tel. Il ne faut pas prendre de l'alcool. La Bible dit pas d'excès. La Bible dit ne vous enivrez pas. La Bible dit, c'est pourquoi les gens se donnent le kilo de dire où est-ce que c'est écrit. Et d'ailleurs, il s'appuie sur cette lettre à Timothée qu'on a donné l'autorisation à Timothée. Je ne suis pas venu donner l'autorisation à qui que ce soit. Mais les commentateurs de la Bible disent que Timothée avait un problème particulier de santé. Alors, Paul lui a donné un régime adapté à sa santé. Quand le pasteur parlait d'ayez une alimentation saine, c'est pour nous éviter, et il a bien dit, je n'ai même pas besoin de répéter, c'est pour nous éviter certains problèmes physiques. Alors, les serviteurs de Dieu ont souvent, pas toujours, prend souvent quelque chose, une écharde que Dieu pointe dans leur vie afin qu'ils se souviennent de lui. Paul lui-même, Dieu lui a dit, ma grâce t'est suffisante, je ne peux pas ôter cela. Tu vas grandir, mourir avec cela. C'est peut-être le cas de Timothée. Timothée avait des problèmes de santé et dans son régime alimentaire, on lui a juste exigé un peu. Je ne sais pas quel est le médecin qui t'a prescrit ce que tu prends. Je ne sais pas et je ne veux pas entrer dans ce débat. Mais je veux juste nous dire que c'était par rapport à un problème de santé. Au lieu que vous preniez pour répondre à un besoin de santé, vous commencez à prendre pour détruire votre santé. Et même si on écrit c'est préjudiciable à la santé, c'est ça ce que vous aimez. Qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive ? Dans le monde de communication, il suffit seulement de présenter un produit et mettre une très belle fille à moitié nue. C'est le produit que tout le monde va acheter. Tellement on est en train dans le subconscient de l'Église et l'Église a perdu le contrôle. Qui t'a prescrit ce que tu prends ? Veille à ton alimentation. Et puis quand tu meurs ou tu tombes malade, c'est l'Église qui doit prier. Tu nous laisses à genoux des années. Les amis. Et la dernière chose que le pasteur a dit, c'était respecter les prescriptions médicales. Alors, je veux donner trois autres habitudes à développer ce matin. Et j'ai déjà dit, la première habitude, c'est l'exhortation. Paul dit à Timothée, développe l'exhortation. Oh, Église, si on prenait les mêmes minutes que nous passons sur les réseaux sociaux en train d'exhorter, imaginez-vous, il y a des gens qui ont des followers que je ne peux même pas dire et donner sur TikTok, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Si on s'est donné cette discipline d'exhorter une personne par jour sur nos réseaux sociaux. Si l'Église, le moment qu'on pense en train de calomnier, on allait les convertir à des moments d'exhortation. Si l'Église allait se focaliser à un message d'encourager quelqu'un qui est à côté de lui. Il y a cette Église que je ne vais pas citer. J'aime chez eux ce qu'ils se connaissent. Même si tu es à Butembo, tu es à Bunia, tu es dans cette Église, celui qui est à Goma te connaît. Et ça, c'est une force. Mais ici, chez nous, sauf ceux qui sont en cellule, c'est difficile de se connaître. Moi-même, je suis là. Je ne connais pas beaucoup de gens, mais je veux faire un effort. Je veux faire un effort. Pourquoi ? Parce que quand je te connais, je veux peut-être connaître ton besoin et Dieu va me donner un message d'exhortation pour toi. Au lieu que je vienne chez toi, on commence à partager les bisodos, qu'on partage un message d'exhortation, qu'on s'encourage. Au fait, le chemin du ciel, Niamure Fusana, tu ne peux pas arriver seul si tu n'as pas quelqu'un qui dit, mon cher, tenons-nous la main, avançons, l'arrivée est certaine. L'exhortation manque à l'Église. Des gens viennent à l'Église, ils rentrent, ils ne se font pas des amis. Et nous avons le kilo de trouver des amis ailleurs. Paul exhorte, ou Timothée exhorte. L'exhortation, c'est un discours pieux qu'on fait pour exciter à la dévotion. L'exhortation, c'est juste un discours pieux. Ce n'est pas quelque chose que je fais, une étude que je fais dans ma carrière théologique. Ce n'est pas une prédication qui respecte les temps et les normes. C'est juste une parole pieuse, mais qui incite quelqu'un à fournir encore de fort. Matthieu 8-8, si je ne m'abuse. Le serviteur dit à Dieu, je n'ai pas besoin de beaucoup de prières. Je n'ai pas beaucoup de choses que tu vas faire ici. J'ai besoin juste que tu dises. J'ai juste besoin que tu dises. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de votre pitié, de votre compassion. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de votre fond. Ils ont besoin d'une parole pour les encourager à marcher. Beaucoup de fois, nous répondons à des problèmes, nous proposons des solutions non adaptées à des problèmes. La Bible dit, si quelqu'un n'a pas de vêtements, donne-lui les vêtements. Si quelqu'un a faim, donne-lui à manger. Il a soif, donne-lui à boire. Mais si quelqu'un a besoin d'une parole, donne-lui une parole. Souvent, on vient chez vous, pas pour venir vous rançonner. On vient juste écouter cet encouragement. Papa, qu'est-ce que tu dis encore? Mon fils, prends courage. On y arrivera. Alors, capitalisez vos moments de discussion et introduisez l'exhortation. Quel est le rôle de l'exhortation? L'exhortation est donnée pour consoler, pour reconforter, pour encourager, pour réprimander, pour avertir. C'est pas à dire comme c'est une exhortation, je veux seulement caresser tes péchés. Non, 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 j'ai dit, mon cher, là où tu vas tomber. Si tu ne reviens pas, en tout cas, bye bye. L'exhortation n'est pas cajoler, flatter, l'exhortation aussi réprimande. Deuxième habitude, c'est le fait de veiller ou d'être éveillé. Si nous lisons vers la fin de ce passage, Paul a dit à Timothée, veille sur toi-même. Tellement que le sommeil est adouci, on a juste besoin de dormir. Tellement qu'on a passé toute la journée en train de travailler, on a juste besoin de se reposer et de dormir. Le jeune pasteur Timothée, il a passé tout le temps en l'église. Peut-être le soir, il s'est dit, ah, je suis fatigué. Je me focalise sur l'église et je m'oublie moi-même. L'apôtre lui dit, veille sur toi. Veiller signifie rester éveillé exactement, être vigilant, être sur ses gardes, rester tout à fait éveillé, conscient, être alerté, intensément concentré. Le fait d'être éveillé peut avoir un impact physique. Jésus lui-même dit à ses disciples, vous n'avez même pas tenu. Debout, debout les amis, veillez, veillez. Ça peut avoir une implication spirituelle. Une implication spirituelle. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Veillez signifie aussi utiliser correctement notre esprit. Ça veut dire mon esprit est vraiment aux aguets. Je saisis l'information, je saisis le message de Dieu. Je me dis ça c'est à moi. Et je m'approprie. Pourquoi il faut veiller? Église, il faut veiller parce que la tribulation arrive. C'est réel. Ça va arriver. Je prie que ça ne te surprenne pas. Que quand cette tribulation va arriver, tu sois debout dans le Seigneur. La Bible dit qu'il vient comme un voleur. On ne sait ni l'heure ni le temps. Si tu dors, il va te surprendre. Il faut veiller parce que le salut est proche. Je l'ai déjà dit. Parce que le diable rôde autour de nous. Il faut veiller parce qu'il y a quelqu'un qui nous cherche. Sa mission, j'ai lu dans la version Parole Vivante, il veut attraper quelqu'un qui veut se faire avaler. Au fait, le diable ne vient pas pour vous avaler. Il vient chercher celui qui est prêt à être avalé. Et quand tu es prêt à être avalé, tu dors, il te consomme. Prêt pour son petit déjeuner. Nous avons une montagne à surmonter. Il faut veiller. Nous avons une montagne à surmonter. Il faut veiller, il faut travailler. Il faut travailler. Au fait, pour ceux qui écrivent, écrivez ceci. Veiller nous aide à prier. Et prier nous aide à veiller. Au fait, quand je prie, je suis à la défensive. Et quand je veille, ça m'aide à prier. Il vous est arrivé avant de dormir, vous vous trouvez tellement fatigué, vous n'avez même pas la force de dire un mot, et vous dormez sans prier. Ça m'est arrivé. Mais toutes les fois quand le Seigneur me réveille, que ce soit à minuit, à 3 heures du matin, ma première réflexe est dit, Seigneur, tu ne peux pas me réveiller pour rien. Alors, je commence à te demander qu'est-ce que tu veux de moi. Beaucoup de mes messages que je partage ici, le Seigneur me donne et les versets et les vérités la nuit. Il me réveille et dit, tac, parlez de ça. Alors, celui qui ne veille pas, il ne recevra pas ce message et cette grâce auprès du Seigneur. La troisième vérité pour finir, ou la troisième habitude à développer, c'est l'habitude de pardonner. L'habitude de pardonner. Et si le Seigneur m'a parlé de... Il m'a juste ramené dans sa dimension en fait. La Bible dit qu'il a le présent. Enfin, il a le passé, il a le présent et il a le futur. Au fait, au devant de lui, c'est comme un tableau. S'il appuie sur le bouton passé, il revient dans le passé. Il me voit dans mon passé. S'il lui plaît de taper sur le bouton présent, il me voit dans mon présent. S'il veut, il peut taper sur mon futur. Il a aussi mon futur au devant de ses yeux. Mais la grâce que j'ai vue dans sa parole, il a dit, moi je pardonne et j'oublie. Comment Dieu, toi qui as le passé, tu peux revivre cette même erreur, mais tu pardonnes et tu oublies. Moi, je ne peux pas rentrer dans cette histoire. Je pardonne, peut-être par mes lèvres, mais je n'oublie pas. Je dis je pardonne ou je refuse carrément de pardonner. Si la faute que moi, je fais à l'Éternel, il a été capable de le pardonner ou de la pardonner et de l'oublier, quelle faute qu'on va faire ou qu'on va me faire que je ne peux pas pardonner. Et Dieu m'a ramené à dire à l'église que le pardon c'est un remède. Parmi les prescriptions que le pasteur nous avait données, il y a aussi le pardon. Pierre demande à Jésus, qu'est-ce que je veux faire? Jésus lui dit, je ne te dis pas cette fois. Je te dis 70 fois 7 fois. Comme pour décourager Paul, il ne faut pas hésiter à pardonner. Parce que tu ne peux pas arriver à 70 même en une journée. Maintenant 70 fois, 7 fois en une journée. Il y a beaucoup de maladies dont nous sommes victimes qui viennent seulement du fait que on n'a pas accepté de pardonner cette personne. Il y a des réalités que nous vivons maintenant parce qu'on n'a pas accepté de pardonner à cette personne. Au fait, la plus grande marque du christianisme, c'est son remède pour le péché. C'est le pardon de Jésus sur la croix. C'est la gloire et l'excellence dans sa parole. C'est le fait que Christ lui-même est venu donner son pardon. S'il était resté au ciel, il allait imposer un billet pour monter là où il est pour demander pardon. personne, ou peut-être nous tous, nous n'allons pas aller là où il est. Mais il a accepté de venir. C'est pourquoi pardonner vient de deux verbes. Le verbe partir et le verbe donner. Nous sommes très professionnels à pardonner dans nos cœurs. Il m'a offensé, mais Seigneur, je l'ai pardonné. On n'a pas de preuve palpable du pardon. Mais ce matin, le Seigneur nous dit, il faut faire un pas vers la personne et tu donnes le pardon. La délivrance ou ta délivrance se trouve dans ton pardon. Je ne sais pas à qui je parle, mais le Seigneur m'a dit que la délivrance, ta délivrance se trouve dans ton pardon. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si je ne pardonne pas, que je ne puisse pas m'attendre à être pardonné. Au fait, on sera surpris au ciel. Quand on arrive, le Seigneur dit, je suis désolé, il y a tel dossier, tel dossier, tel dossier, c'est encore fermé, tu n'as pas ouvert. C'est pourquoi ton nom n'est pas sur la liste ou dans le livre de vie. Pardonner, c'est un choix. Pardonner, c'est s'ouvrir à la délivrance. Pardonner, c'est choisir la liberté en tant qu'enfant de Dieu. Pardonner, c'est aimer en acte et en vérité. Pardonner, c'est dire avec toi, Seigneur, et pour toi, je pardonne à tel ou une, tel autre mal, un tel autre mal qui m'a été fait. Pardonner, c'est être fort. Pardonner, ce n'est plus se laisser dominer par le passé. Pardonner, c'est dire au bourreau, vous avez perdu. Pardonner, c'est une des habitudes des conquérants et des vainqueurs. Si Joseph n'avait pas pardonné à ses frères, au moment de 7 ans de famine, il serait mort. Mais le pardon, même si élevé, a permis à ce que toute sa famille vienne s'approvisionner. Et si vous lisez bien la Bible avec moi, Joseph a mis même des présents, des cadeaux, pour dire que cette histoire pour moi, c'est déjà fini. D'ailleurs, vous avez été les escaliers qui m'ont amené à ce poste. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de pardonner ou d'être pardonné? Avant de donner ton offrande, regarde. S'il y a encore un petit problème, laisse ton offrande. Je ne sais pas si c'est la laisser ici ou c'est la laisser en poche. Rentre d'abord et règle cette situation. Reviens et donne ton offrande. Si nous pardonnons aux autres, notre Père nous pardonnera aussi. Alors nous allons baisser nos têtes pendant que le pasteur André est en train d'avancer et nous allons dire à Dieu, des fois c'est difficile de pardonner. Par notre nature humaine, quand on voit l'erreur, la faute qui a été commise à notre personne, c'est difficile de pardonner. Mais ce matin, Dieu dit, faisons de ça une habitude. Faites un effort. En fait, les habitudes sont des disciplines qui font mal. Même quand ça fait mal, accepte de pardonner.